première indication sur la première partie, donc du récit de la Veda. Je vous ai dit qu'il y avait deux parties. La première qui commence à Ravadou et qui implique ensuite la Mishnah suivante. Maasé de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est-à-dire le Seder de Shlepak. Ensuite le Pessah de la fin des temps. Après il y a la Bracha sur le Magid, c'est-à-dire sur la Veda elle-même, pour appeler Baruch HaMakom Baruch Hu. Et puis vous avez les quatre enfants. Okay. Bon, je vous donne une première indication sur cette première partie. Ensuite on essaiera d'avancer sur la deuxième partie qui commence à Mitnechila. Il y a donc un enseignement dans la Gemara de Psachim. La Gemara de Psachim, c'est le traité qui s'occupe de tous les problèmes de Pessah. C'est qu'on commence par on commence par le Sheva, c'est-à-dire par les... C'était pour moi?
Oui, mais c'est les gens chrétiens qui veulent avoir des enseignements.
Je t'ai dit de m'appeler, si un cossu.
J'ai
bien
dit ça, je pense que c'était ça.
Je t'ai dit de m'appeler si un cossu. Pourquoi tu raisonnes?
Bon,
c'est tout. Bien, alors je reprends le. Il doit rappeler.
Je dis.
D'accord. Alors, donc, sur cette première partie, là. De quoi je parlais
justement?
Oui, dans la mémoire de Sahim. C'est que dans le récit de la sortie d'Égypte implique deux principes. Le premier, c'est un principe de Sheva, c'est-à-dire de louange pour Israël. Et c'est la première définition, le passage de la galoute à la Géoula. Le deuxième principe, c'est un principe de Gnad. Vous connaissez ces deux termes, je pense. Sheva, ça veut dire louange. Sheva. Alors le Shevar commence à Abadi Maïdo, Mayotienu, Hachem le Kono et Mitzrayim. La deuxième partie qui commencera à Mitechila, c'est Gnag. Gnag, c'est le contraire de la louange. Regarde, tu appelles tout de suite des restiers. Et Gnag, c'est le contraire de la louange. Vous connaissez le mot Gnag? Les galons. Gnag. Je ne sais jamais comment dire en français le contraire de la louange. Le contraire de félicité.
Blâmer.
Gnaï. Alors, Sheva, c'est la louange qui commence à Avadi. Le Gnaï commence à Mitechila. Quel était le Gnaï? C'est la raison pour laquelle il a été nécessaire de descendre à la galoute. Vous comprenez? Alors, on commence par le Sheva. Qu'est-ce que nous avons eu là? La première Mishnah, donc précédemment. Ensuite, dans la deuxième Mishnah, on raconte l'importance du fait de rappeler le récit de la sortie d'Égypte. Je reviens pas en détail, c'est la Mishnah qui s'appelle le Seder de Bnei Brak. Simplement, je vous explique. Première lecture, je veux dire très rapidement. Première lecture, il y a les plus grandes des Talmidei Chachamim de cette époque dont nous parlons. Et cette époque, c'était celle de l'occupation par les Romains, de la Judée par les Romains. Ils sont réunis à Bnei Brak pour faire la nuit du Seder. Et ils pratiquent tellement abondamment la mitzvah de parler de la sortie d'Égypte que finalement ça les mène jusqu'à l'heure de la tfila du matin et que leurs élèves viennent les prévenir que l'heure du Kriyat Shema de Shachri est arrivée. Retenez surtout l'expression Rabotenu il y a Zman Kriyat Shema Shel Shachri. Et ça, c'est la première lecture habituelle et qui est absolument authentique, il n'y a pas de problème. Seulement, il y a une explication que donne la Gemara qui est beaucoup plus particulière. En fait, il s'agissait de la réunion des principaux Talmidei Chachamim de l'époque qui étaient en controverse par rapport à l'attitude qu'il fallait avoir vis-à-vis de l'occupant romain. Est-ce qu'il fallait prêcher la révolte ouverte, la rébellion ouverte, comme par exemple Rabbi Akiva, ou est-ce qu'au contraire qu'il fallait composer avec l'occupant romain? Et donc en réalité, c'était une sorte d'état-major de la résistance judéenne, disons, de l'époque, qui s'était réunie à Bnei Brak et discutait de leur propre sortie d'Égypte, la nuit du Seder de Pessah, c'est-à-dire l'occasion, le prétexte officiel avait été de se réunir pour le Seder de Pessah, mais en réalité, il parlait du problème de Pessah, de leur propre temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Et par là, la Gemara explique un certain nombre de difficultés de cette Mishnah, un étonnement qu'on peut avoir si de si grands Talmidei Chachamim sont réunis ensemble, comment se fait-il que leurs élèves ne soient pas présents pour profiter de leur enseignement et ne soient pas là, ils soient allés dormir. Vous comprenez la difficulté. Et parce que, enfin, dans les temps normaux, jamais on a raté une occasion d'assister à l'étude de deux grands maîtres entre eux. Parce que les élèves, en général, écoutent la chita de leur maître. Mais lorsque des maîtres étudient entre eux, alors ils peuvent profiter d'un plus gros niveau de la Torah en entendant comment les autres aussi expliquent. Vous comprenez le problème. Et donc, ce serait invraisemblable qu'il y ait un événement d'une telle importance et que les élèves soient restés devant. La réponse est très simple. En réalité, les élèves étaient les soldats de l'armée de Bar-Kokhba et ils faisaient le guet. Ils étaient dans une caverne. Les grands Hamim étaient dans une caverne cachée. Ils faisaient le guet dehors. Et c'est la raison pour laquelle les Hamim ne savaient pas si l'heure du Kriyat Shema du matin était arrivée. Et ce sont leurs élèves qui faisaient le guet dehors qui sont venus les premiers. Vous avez compris le sens. Retenez surtout l'expression de Kriyat Shema chez Shachrit. Le Kriyat Shema du soir, du point de vue de la signification des catégories de Galut Geoula, le Kriyat Shema du soir est celui dans lequel on rentre dans la nuit, celui dans lequel on rentre dans la Galut. Le Kriyat Shema du matin, c'est celui qui annonce la délivrance. C'est-à-dire qu'il y a une dimension très, très, très importante, très profonde dans l'expression. Lorsque les élèves viennent dire à leur maître, Igyar Zman Kriyat Shema Shel Shachrit. C'est-à-dire le temps de la Geoula est arrivé. Indépendamment du fait qu'il s'agissait de façon directe de Kriyat Shema du matin, du lendemain matin. Vous avez compris, vous? Non? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Pendant que les maîtres étaient en train de discuter qu'est-ce qu'il faut faire, les élèves viennent leur dire le temps du Kriyat Shema du matin est arrivé. Vous avez entendu ce qu'il y a derrière?
C'était
Oui, ça aurait pu être un temps de la Géoula, mais cela a échoué. C'était le temps de la révolte de Bar-Kokhba, et vous vous rappelez que l'essentiel de l'armée de Bar-Kokhba, c'était les élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'il y a là différentes chitot, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, vous aurez le temps d'apprendre ça vraiment dans la Gemara elle-même, quand vous étudierez, différentes chitot de l'attitude politique à avoir vis-à-vis des Romains. Comme par exemple aujourd'hui, vous avez la chita du Rambam, la chita du Rabbi Yosef, celle de la Gouda, celle des Mizrahi, celle des Hasidim, c'est pas exactement la même. Et finalement, la révolte a été déclenchée par Rabbi Akiva. Vous comprenez finalement, la révolte a échoué, bon, pour des raisons autres, mais là, ce soir-là, exceptionnellement, ils étaient tous réunis pour passer le Seder ensemble et s'occuper de quoi? Bien sûr, de la sortie d'Égypte. Mais s'occuper de la décision à prendre pour la sortie d'Égypte de leur temps. Vous avez compris le... Bon. Ensuite, il y a cette Mishnah que je vous ai lue très rapidement dans la Gemara de Brachot, peut-être avant encore mon départ en voyage. Abelazar ben Azaria. Oui. Yemechayecha yamim, kolimechayecha alelot. Vous vous rappelez de cela? C'est là que je vous ai lu le verset du prophète Jérémie qui annonce qu'à la délivrance de la fin des temps, le rappel de la sortie d'Égypte sera second par rapport à ce que l'on aura à commémorer. Okay? Vous suivez? Bon. Ensuite, il y a donc la bracha qui. Il y a quelqu'un au bureau? La bracha qui parle des quatre sortes d'enfants. Je vais vous l'expliquer très. Je vais essayer de vous les expliquer très rapidement. Le hacham. Le rachar, le tam et le shéver, le dervishon, apparemment, ne sont pas dans la même catégorie. Puisque hacham, sage, c'est par rapport à la connaissance. Rachar, méchant, c'est par rapport à la vertu. Okay. Tam, le simple, c'est apparemment aussi par rapport à la connaissance. Et shéver, le dervishon, aussi. C'est-à-dire, a priori, on risque de ne pas percevoir dans quelle catégorie ils sont définis comme quatre catégories différentes. Vous comprenez le problème? En fait, une des manières qui a été donnée dans l'enseignement des commentateurs de la Gana, c'est que c'est l'attitude vis-à-vis du problème de la destinée de chacun. C'est-à-dire, on va élargir la définition de la manière la plus large. La relation de chacun à son histoire. Et bien entendu, en tant que juif, par rapport à l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, le Hacham est celui qui, par lui-même, comprend qu'il y a un sens. C'est-à-dire, il est Hacham par lui-même. C'est-à-dire, de lui-même, il comprend qu'il y a une signification à l'histoire d'Israël et il demande ce qu'il faut faire pour réussir cette signification. Si vous avez bien compris, il ne demande pas quelle est cette signification-là. Il demande qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est clair? On peut un peu relier cela à l'expression de Naaseh Benishma, qu'on a étudié hier. Alors, je dis rapidement, pour donner une indication importante sur cette Mishnah. Regardez. Hacha Maomer. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציבה השם אלוקנו אתכם? C'est-à-dire, quelles sont les prescriptions, je ne rentre pas dans le détail des différents termes, que Hachem Elokenu, Hachem notre Dieu, vous a ordonné. Faites bien attention à la manière dont le Hacham pose la question. Il dit vous a ordonné. Alors on serait tenté de le ranger comme le Rachat dans la catégorie de celui qui dit vous. Mais regardez bien comment c'est exprimé. Hachem Elokenu. Hachem, notre Dieu, vous a ordonné à vous, parce que c'est vous qui avez vécu l'événement. Et nous, les enfants, nous devons avoir l'explication de votre part. Mais il se met dans la communauté en disant Hachem Elokeinu. Et c'est clair? Et il est normal qu'ils disent Hachem Elokeinu, Hachem Siva, Hachem Elokeinu, et très bon. Puisqu'effectivement, Dieu a donné ses commandements à la sortie d'Égypte à la génération des parents. Et le Hacham est le porte-parole de la génération des enfants. Et il demande quel est le sens de notre histoire que vous connaissez. C'est pas qu'il se met en dehors. Ça y est, c'est clair? Il est bien compris. Donc, il n'y a pas de question là-dessus. Tandis, alors, c'est pourquoi il faut lui répondre sur la pratique du rite de Pessah jusqu'au dernier détail. Et Martyrin Ahara Pessah Radikon. Bon, je vais très rapidement. Je n'ai pas le temps de vous citer les contenus, même les commentaires à ce sujet, mais l'idée la plus générale est qu'à partir du moment où le dernier geste du passage est accompli, eh bien c'est irréversible. En martyrine a haré à Pessah. Une fois qu'on a mangé le Pessah, on ne mange plus rien. Une fois que le geste du Pessah est réalisé, eh bien c'est irréversible. On ne peut plus revenir en arrière. Bon, alors que le Rachar, lui, la manière dont il pose la question est qu'il sait. Il admet que cette histoire peut avoir une signification, mais il se met en dehors même de cette signification. C'est-à-dire, le Rachar peut être Hacham. Donc, il peut rentrer dans la catégorie de la définition par la connaissance. Mais bien qu'ayant cette connaissance, il se met en dehors. Enfin, si vous voulez, sa formule serait, à la limite, ça ne me concerne pas. Je ne veux pas en être. Alors, il dit, ma Aouda Azot, l'Achem. Comment la Mishnah répond? La Chem Benono, en disant la Chem, il s'est mis en dehors, comme si ça ne le concernait pas à lui, personnellement. Ou Fiche et Metsiet Atmo Minakelal, par le fait qu'il s'est mis en dehors du clan, de la collectivité, Kafar Baïka. Il est renégat dans l'essentiel. Vous voyez, vous avez ici une indication très importante de l'importance du clan. Qu'est-ce que ça veut dire être renégat? C'est être en dehors du clan. C'est-à-dire quelqu'un qui se définirait pour lui-même une foi juive, mais qui n'est pas celle de la nation, de la collectivité, est défini comme renégat, même s'il est croyant. C'est clair. La fatah kechina, alors là c'est une expression classique, fait lui grincer les dents. Mais je reviendrai là-dessus. Et dit lui, bah, c'est précisément par rapport à cela que nous sommes en train de faire, que Asa Hashem live et Tzadim Yitzraïm, que Dieu agit pour moi au moment de ma sortie d'Égypte. Vous voyez, dans la réponse, je m'inclus dans l'événement. Et c'est pour indiquer le contraste qu'il y a entre l'attitude du Rachar qui s'exclut de l'événement et l'attitude de la réponse où je m'inclus dans l'événement comme si vraiment moi-même je me trouvais dans l'événement historique de la sortie d'Égypte elle-même. Alors, c'est relié au verset que vous avez dû, certainement déjà étudié. Alors, lui, Merolo, pour moi et pas pour lui, puisqu'il a dit la chem, Merolo, on lui répond lui, Merolo, il veillera Yachal, et donc ça signifie que s'il était là-bas, là-bas où, à l'événement de la sortie d'Égypte, l'oreille à Nigal, il n'aurait pas été délivré. C'est clair? Bon, je vais revenir sur un enseignement que l'Oracle nous a donné là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez cité ou quoi. C'est possible d'ailleurs, je vous l'ai cité, mais je ne me rappelle plus après. L'enseignement porte d'abord sur Yuhayasham ou Yanigal. S'il avait été là-bas, il n'aurait pas été délivré. Sham, là-bas. Et le rabbin nous a expliqué ceci. Il y a une différence entre les critères de sélection d'identité au moment de la sortie d'Égypte et au moment de la délivrance de la fin des temps. C'est-à-dire, la Mishnah est très claire, elle veut dire qu'au moment de la sortie d'Égypte, le Rachar n'aurait pas été délivré. Sham, mais Kav, oui. Mais aujourd'hui, oui. C'est-à-dire aujourd'hui, même le Rachar. Qui peut expliquer pourquoi? Vous avez compris en hébreu qu'il aurait un Sham, il aurait un Nigal. Ça implique que maintenant, oui, il aurait pu être sauvé. Tu peux expliquer pourquoi?
Le niveau général de la génération, genre, à chaque génération, le niveau moyen moral décroît. Et comme un petit peu comme vous nommez, qui était juste de sa génération, mais en fait, vous n'avez pas une valeur comparée à un patriarche, vous n'avez pas une valeur en lui-même.
C'est pas suffisamment clair. Bon, je vais vous donner la réponse parce qu'on a peu de temps, mais réfléchissez bien. Et même l'événement de la sortie d'Égypte, tu as fait avoir réussi cet enjeu. Même l'événement de la sortie d'Égypte, c'est surtout l'accomplissement d'une promesse. Mais il y a quand même une sorte de sélection d'identité au niveau du mérite. Et par conséquent, le rachat qui s'exclut est exclu. Et seul celui qui s'exclut lui-même fait remarquer cela. Okay. Comprenez bien cela. Aucun tribunal rabbinique n'a le droit d'exclure de l'identité d'Israël un individu quelconque que Dieu a créé dans cette identité, quelle que soit ses forces. Mais on prend acte si lui s'exclut. Et quoi, il y a toute une discussion dans la Gemara, dans le 11e chapitre de Sanhedrin. Même le fait de prendre acte légalise, c'est déjà une intervention du Bédin. Parce que tant que je n'ai pas pris acte, bon, il a dit des bêtises. Okay. Mais dès que je prends acte, ces bêtises qu'il a dit, ça l'exclut. Bien que ce soit lui-même qui s'est exclu en les disant. Vous suivez? Vous voyez la gravité du problème. Et en fait, dans le sens, ce qu'on appelle le Helem, l'excommunication, c'est pas du tout un principe juif. Okay. Je sais bien qu'il y a des époques où on a utilisé cela, mais je vous dirai dans quel cas. Mais cette tendance à excommunier quelqu'un parce qu'il ne croit pas comme il faut, c'est pas du tout dans la tradition. Ça, vous trouvez ça dans les religions qui sont basées sur des croyances. Parce que l'identité juive, c'est un fait d'existence. Et quelqu'un peut être malade et il pense faux. C'est pas parce qu'il pense faux qu'on va lui enlever l'identité que Dieu l'a donnée en le créant. Vous voyez à quel niveau ça se passe? Est-ce que c'est clair? On n'excommunie jamais quelqu'un pour ses idées. Vous suivez le problème? Je veux dire que, très bien attention, je sais bien que dans les milieux plus ou moins orthodoxes, on traite d'apicoros à tour de bras. Ah, celui-là, c'est un apicoros, c'est une injure énorme. Et qu'il ne faut jamais employer.
Qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui s'exclut?
Je vais expliquer, mais d'abord, comprenez bien cette idée, que ce n'est pas au niveau des idées que ça se passe. Par exemple, si on a excommunié Spinoza, ce n'est pas à cause de ce qu'il a écrit, c'est à cause de l'attitude politique anti-juive qu'il a eue vis-à-vis du peuple juif. Il a été un traître de la communauté. Alors on l'a excommunié, lui et ses livres. quand vous apprenez l'histoire de Spinoza, vous voyez, bon, c'était indéniablement un génie, un des grands génies de la philosophie, très probablement, détraqué par le moralisme des événements de l'inquisition. Dans tous ces milieux-là, tout le monde était finalement devenu malade. En particulier, un de ses maîtres, plus ou moins de la génération présente, qui s'appelait D'Acosta. Vous avez entendu parler de D'Acosta. Là, c'est un exemple clair. C'est vraiment un homme qui a énormément souffert et qui était vraiment un génie philosophique, mais complètement fou, un peu comme est devenu Nietzsche à la fin de sa vie d'ailleurs. Spinoza, c'est une folie très profonde, enfin très dangereuse d'ailleurs. C'est un orgueil philosophique énorme. À la limite, si un jour vous comprenez Spinoza, bon, c'est pas facile à étudier, vous verrez que c'est un de ces génies philosophiques qui vraiment se sont pris pour Dieu lui-même. Et c'est une folie extrêmement insidieuse, c'est un orgueil épouvantable. Il y a un très grand historien de la philosophie, Alexandre Kolev, qui a perçu cela, qui a écrit une fois ça dans une phrase extraordinaire. Il dit Spinoza explique tout ce qu'il y a dans le monde, sauf que ce livre-là ait pu être écrit, sinon par Dieu lui-même. Il dit, je t'ai deviné, Spinoza. C'est plus que Dieu. Son système est total, il explique tout, sauf le fait que son livre ait pu être écrit, à moins qu'il soit Dieu lui-même. Vous avez compris? Et alors, mais je vais vous expliquer d'où vient cette maladie. C'est une maladie des juifs des intellectuels sfaradim de l'époque. C'est le résultat du moralisme. C'est-à-dire, ils ont été mis dans une situation existentielle historique très difficile à supporter. Dans la société extérieure chrétienne, ils devaient, faire semblant d'attaquer le judaïsme. Mais par compensation, dans la vie privée, ils attaquaient le christianisme. Finalement, ils sont devenus nihilistes. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui est obligé d'attaquer sa propre identité dehors, et donc par compensation, attaquer l'identité de l'autre dedans, finalement devient anarchiste. Enfin, plus qu'anarchiste, nihiliste. C'est un peu ce qui est arrivé à ce milieu des juifs espagnols d'Amsterdam, et d'ailleurs dans les autres communautés. Et je crois qu'on peut dire que Spinoza est un des résultats de cela. Et en général, la philosophie de Spinoza et le nihilisme qu'elle a engendré dans la civilisation occidentale vient de là. C'est-à-dire ces hommes qui n'ont pas pu se sortir de ce conflit d'identité, de ce que je vous appelle le maralisme. Bon, le maralisme historique, vous savez ce que c'est. Mais finalement, la double appartenance culturelle, c'est dans tout le cas du maralisme. Donc, c'était des juifs qui faisaient semblant d'être chrétiens dans la société extérieure et qui étaient anti-chrétiens à l'intérieur. Non, vous n'avez pas les sondages, vous ? Ah, donc. Bon, si jamais il y a le téléphone, tu m'appelles. Est-ce que Claire m'appelle ? Je ne sais pas. Non. Si jamais elle m'appelle. Qu'est-ce que je dis encore ? À ce propos, je vais vous parler de ce qu'il y a. À propos de l'excommunication. C'est-à-dire, retenez bien cela. Peut-être nous aurons une fois l'occasion de dire ça dans la Gemara. C'est un principe très clair de la Gemara. Il n'y a aucune prérogative au tribunal rabbinique d'enlever l'identité d'Israël à un membre d'Israël. On prend acte qu'il est en dehors de la communauté, qu'il s'est mis en dehors de la communauté. Mais on ne peut pas décider qu'il ne fait pas partie de l'identité que Dieu lui a donnée. Je vais donner un autre exemple, mais très rapidement. Par exemple, aucun tribunal rabbinique ne peut prononcer un divorce. Il faut que ce soit le mari qui a donné mariage à sa femme qui lui donne le divorce. Et le principe, c'est à péché à ça ou à péché utile. C'est la bouche qui est interdite qui peut permettre. C'est-à-dire, même si le tribunal rabbinique est persuadé, après le procès, un procès de divorce, qu'il faut prononcer le divorce, il ne peut pas le faire si le mari ne décide pas. Parce que la réalité du mariage, c'est la volonté du mari qui l'a créé. Donc il n'y a que la volonté du mari qui peut l'annuler. Et alors, ça crée des situations extrêmement difficiles dans les tribunaux rabbiniques, parce que si nous avions affaire avec des tzadikim, Tout va bien. Cette loi, elle est faite pour des tzadikim. Mais il y a des maris qui sont d'Erjaïm et qui profitent, par exemple, de cette clause pour essayer d'extorquer à leur femme tout ce qu'ils peuvent extorquer. Alors, je vous expliquerai quelle est la disposition que l'on prend, c'est-à-dire, finalement, on met en prison le mari jusqu'à ce qu'il comprenne que s'il est en prison, c'est parce qu'il ne se décide pas à donner le divorce, alors il le bat. Et des fois, il meurt en prison, il ne donne pas. La méchanceté des maris, vous connaissez. Mais pourquoi ? Parce qu'on est devant une impossibilité. Une réalité ne peut pas être changée par une décision verbale. Vous comprenez c'est quelque chose qui ressemble. Je me rappelle encore quand j'étais enfant, en Algérie, il y avait le statut mosaïque. Vous savez ce que c'est le statut mosaïque ? C'est-à-dire, enfin, pour un certain nombre de problèmes de la société, en particulier le statut matrimonial, les différentes minorités religieuses n'étaient pas jugées par la loi française, mais par la loi de leur communauté. Par exemple, les musulmans suivant la loi coranique et les juifs suivant la loi de Mosaïque. Vous comprenez de quoi je parle ? Et alors, je me rappelle encore de cela. Je voyais encore, c'était du temps de mon grand-père. Le pacha donnait des agents de police au rabbin. Quand le rabbin décidait qu'un père devait donner le divorce à sa femme et que le juif ne voulait pas, alors il demandait des agents de police au pacha qui suivaient le juif en question du matin au soir. À chaque petite faute qu'il faisait, n'importe laquelle, il recevait la bastonnade. Jusqu'à ce qu'il dise, bon, ça c'est à cause de ma femme, allez, je vais divorcer. Mais je me rappelle très bien de ça. Vous voyez comment ça marche. C'est-à-dire, on ne va pas l'obliger à divorcer de sa femme, parce qu'il faut qu'il le fasse librement. Mais on va le mettre dans une tsara telle que finalement il le fera librement. Et derrière Hagar, on a expliqué comme cela aussi la sortie d'Égypte. Le pharaon ne voulait pas laisser sortir Israël. Pour des raisons qui lui étaient propres. Il savait très bien que si Israël sort de l'Égypte, c'est la fin de la civilisation d'Égypte. Ça, je crois qu'on en a parlé souvent. Les goïms, même si ce n'est pas clair dans leur esprit, ressentent très profondément ce fait que ces juifs qu'ils n'aiment pas, c'est le sel de la terre. Que ces juifs qu'ils n'aiment pas du tout, c'est eux qui mènent la bénédiction chez eux, ils ne veulent pas les laisser partir. Vous comprenez le problème. Et donc, le temps était venu d'obtenir la sortie d'Égypte, avant le temps, je veux dire, parce qu'il y a eu urgence, et le pharaon. Ne voulait pas laisser sortir Israël. Alors il a reçu les 10 plaies, pas pour laisser sortir Israël, il a reçu les 10 plaies parce qu'il a violé les 10 principes de la loi morale. Et à cause de ces 10 plaies qu'il a reçues, finalement ça l'a mis dans une situation de panique telle que finalement il a laissé sortir Israël. Mais c'est dit en clair dans le récit du livre de Shemot que les Égyptiens ont finalement obtenu du pharaon de laisser sortir Israël, parce qu'ils ont dit, si tu les laisses encore, on va complètement disparaître avec ces plaies-là. Vous avez compris quel est l'idée. Et alors, en fin de compte, le pharaon s'est décidé à renvoyer Israël, et le terme qui est employé par la Torah, c'est le terme de divorce. « Vayi beshalach pharaon et Aaron » lorsque le pharaon lui renvoyait le peuple. « Shiluchim » c'est le divorce. Alors, vous voyez ce qui se passe. Parce que si l'objectif des plaies était uniquement de laisser sortir Israël avec une sorte de c'est donc un autre objectif que simplement laisser sortir Israël, ils avaient à recevoir le châtiment de leur faute d'autre part. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Jusqu'à ce que de lui-même ils disent bon, qu'il parte. Après ils se ravisent tout de suite, mais entre temps le tribunal de droit prière, le divorce a été prononcé et on ne peut pas regretter après. Vous avez compris le principe de la Gemara en tout cas est le suivant. Si la Neshama, même d'un rachat, était libre de dire ce qu'elle veut, elle voudrait le bien. Mais elle est prisonnière. Alors il faut l'aider à se libérer. Vous connaissez cette formule, nul n'est méchant volontairement. Vous connaissez cette formule? Nul n'est méchant volontairement. Ça veut dire que si profondément, la Neshama, même d'un rachat, profondément, c'est une Neshama d'un tzadik qui est devenu Rachaïm. Dieu n'a pas créé l'Erchaïm. L'Erchaïm, c'est des tzadikim qui sont devenus Rachaïm. Parce qu'ils sont libres. Bon, c'est pas si simple que ça, mais ça revient à ça. Et par conséquent, si la Neshama du Rachaïm était vraiment libre de dire ce qu'elle voudrait, ce qu'elle voulait, ce qu'elle veut. Elle dirait qu'elle veut le bien. Alors on l'aide à se réveiller en la propre. C'est ça l'objet des histoires. C'est une sorte de thérapeutique par électrochoc. Vous connaissez la thérapeutique par électrochoc? Quelque chose de ce genre. Chaque plaie correspond à un des 10 commandements. Oui. Et qui correspond à une des 10 paroles de la création. À Saramahari, à Sereta Dibero et à Saramahari. Tout ça, vous pouvez étudier dans le Kavurat Hashem du Maharal, mais enfin, quand vous avancerez dans l'étude, vous retrouverez tout. Et ça correspond aux 10 sphirotes, bien entendu. Le principe est le suivant. Parce que le pharaon a violé les 10 principes de la loi, il a reçu les 10 plaies. Et du dedans de cette dialectique de forte punition, alors on a obtenu la décision de la libération d'Israël. Mais l'objectif des plaies, c'est pas uniquement d'obtenir que le pharaon laisse partir Israël, parce qu'il aurait suffi d'une seule, la dernière qui lui a fait peur. Il y a autre chose comme objectif. Est-ce que c'est évidemment clair? Alors je reviens donc à la définition du rachat. Il m'a yacham, l'orayanika. Et voilà pourquoi je vous ai dit ce que nous enseignons à Kouakou, parce que dans Kriyat Shema Shachrit, il y a tous les enfants, même le rachat. Et ça va me permettre de vous parler du cinquième enfant, mais je vais pas parler du rachat. La raison au Shachrit. Vous avez chez nous le dernier chôle, Raha, Racha, Dame. Donc le cinquième, l'allusion est dans le Yud. Vous suivez? Alors je parlerai du cinquième après. Pour ça, je vous le cite tout de suite pour vous indiquer que le Racha est là-dedans. Et nous avons d'ailleurs un grand principe dans la Gemara, c'est une fête, un des Moradim, une fête qui commémore les événements historiques de l'histoire d'Israël n'est pas une fête vraiment si les Rechaïm n'y participent pas. C'est-à-dire, si c'est rien que des Tzadikim qui font la fête, c'est pas la fête. Parce que le peuple tout entier, c'est y compris les Rechaïm. Sinon, c'est pas le peuple. Sinon, c'est une communauté, une paroisse, une église. L'église des saints, bon, mais l'église des saints, c'est l'église des saints. Le peuple, c'est avec les Rechaïm. Vous suivez? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde ce que je dis là? Vous rappelez, oui, on a étudié. Vous rappelez le mot de Tzibour, Tzadikim Benoni Moshaï. Et c'est pourquoi la commémoration des fêtes au Kotel, c'est très important. Bien qu'on ait gêné de prier au Kotel, vous avez remarqué, mais c'est très important parce qu'il y a aussi les Shaï. Vous avez remarqué qu'il y a des touristes. Vous avez une synagogue à Chaïm, on ne peut pas venir. Et d'ailleurs, dans toute synagogue, il y a un rachat. Ça vient, et je vais vous dire ici, ça va vous étonner. C'est la querelle qu'il y a eu entre les chassidim et les mitnagdim. Vous avez déjà appris ça en histoire, non? La querelle entre les mitnagdim et les chassidim. Vous n'êtes pas arrivé là?
Si, avec que.
Bon, mais vous savez que ça a été une querelle terrible. Enfin, c'est allé jusqu'à l'assassinat réciproque, les dénonciations. Et... Non, c'est appris. Bon. Alors, il y a eu. Bon, maintenant, tout ça, ça s'est atténué. Je dis qu'atténué, ça s'est résorbé. Mais c'était une grande querelle. Et je montre aucune idée à quel point il y a des mitnaglim, des descendants de mitnaglim qui pratiquent des miracles de chassidim sans s'en rendre compte. Et les descendants de Chassidim pratiquent des minagim de mitnagim. Si leurs ancêtres savaient ça, ils sont. Finalement, ça s'est résorbé, mais c'était vraiment très dur. Alors, en particulier, les Chassidim étaient contre le rabbi, pas le rabbi dans le sens chassid, contre le grand rabbin de la synagogue. Vous voyez ce que je veux dire? Les rabbins ont mis un chapeau tout en haut. Et alors, les mitnagim, eux, au contraire, suivaient le. Ils s'appelaient d'ailleurs les rabbinites, les mitnagim. Alors ils disaient Rabbi, c'est Roche Bene Israël. Kol Bene Israël. Donc, les chassidim leur répondaient, c'est rare, Bene Hachem. Alors, quand tout synagogue est un rachat, vous savez qui c'est. Mais alors, il y a même des fois un grand rachat, il appelle ça un grand rachat. Et pour revenir donc à notre question, voilà ce qu'il a expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire un créé de China ? Regardez le grand rachat. C'est Rech, Chin, Aïe. Si j'enlève le Chin, il reste Ra. Quelle est la différence ? Ra, c'est le Yetzerara. Tandis que Racha, j'ajoute ma mauvaise volonté au Yetzerara. C'est ça, Racha. Rishrout, c'est la méchanceté. La différence qu'il y a entre mauvais et méchant, je ne sais pas en français lequel c'est plus grave. Être méchant naturellement, parce qu'il y a le Yetzerara, ou être mauvais. Je crois que mauvais, c'est pire en français. Qu'est-ce ? Alors, Racha, c'est le mauvais. Parce qu'en plus, il y a la mauvaise volonté. Alors, regardez ce que dit la Mishnah. Aki et Shinab, enlève-lui une dent, le Shin. Shin, c'est la dent. Alors, si tu enlèves le Shin, il reste rien que rare. À ce moment-là, il peut être sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est joli, ça veut dire. C'est pas casse-lui les dents. Mais on va voir pourquoi il s'agit quand même de lui casser les dents. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ça veut dire, si on arrive à faire comprendre à quelqu'un que son parti pris de mauvaise volonté, ça vient d'une tendance naturelle à s'opposer, alors on a démystifié. Je vous rends, on a. Comment tu dis ça ? On a résolu le problème. Je ne sais plus pareil. Vous avez compris l'idée que je prends ? À partir du moment où on a fait prendre conscience à quelqu'un d'où vient son parti pris, et qu'il s'agit d'une tendance naturelle hypertrophiée, c'est déjà le chemin de la guérison. Enfin, c'est vraiment une thérapeutique pédagogique. Parce qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette pédagogie ? Un enfant est contre, alors on le met dehors, okay, au lieu d'essayer de le guérir, de le récupérer. Alors c'est justement l'inverse. Akechinab, ça veut dire, rends-lui la dent sensible. C'est-à-dire, fais-lui comprendre que c'est son Yetzera rare qui est devenu riche en route. Enlève-lui le Chin et il voit qu'il reste que rare. Est-ce que c'est plus clair ? Bon, s'il y a des pédagogues parmi vous, même en l'air, vous comprenez de quoi il s'agit. Bien. Et après, je reviendrai d'ailleurs sur le contenu du conseil pédagogique de la Mishnah elle-même. Alors, la Kabbalah a expliqué ça. Cette explication vient d'un principe de la Kabbalah. C'est que c'est le Yetzer Hara qui fait que il y a volonté d'être rachat. Je vais prendre un exemple. Le rachat par excellence, c'est le nachash. Qu'est-ce qui définit le nachash ? C'est que chez lui, la salive, qui est le signe de l'envie, devient tellement mauvaise que ça devient du poison. La salive elle-même devient du poison. Et où ça se passe ? Avec les dents. C'est super. Le mot que j'ai cherché, c'est le venin. Oui. Okay. Qu'est-ce que c'est que le venin ? C'est de la salive devenue tellement le Yetzerara concentré qu'elle devient rare. Or, la salive elle-même, c'est quoi ? C'est l'appétit de vouloir. Okay. C'est le Yetzerara. Alors on lui explique d'où ça vient. C'est son Yetzerara qui travaille. Et s'il prend conscience de cela, alors tous les alibis de parti pris idéologique s'écroulent, c'est démystifié et on le guérit. Ça y est, c'est clair. Mais pourquoi ça se passe avec les dents ? Ça s'appelle Tipul Shoresh. Bien, alors quel est le contenu de la Mishnah ? Et c'est pas facile, mais on a une consigne extrêmement claire et simple. C'est-à-dire faire prendre conscience au rachat des conséquences de sa propre position. Il dit « j'en suis pas », lui faire prendre conscience que ça veut dire que tu n'en es pas au moment de la Géoula. Si on arrive à lui faire comprendre cela, « il ou ayasha ou ayanigal », alors il fait toujours. Est-ce que c'est clair ? Vous avez compris ? Donc, on avance. Bon, voilà donc pour le rachat. Le tam, c'est celui à qui il faut raconter l'histoire faut qu'il se rende compte qu'il s'est passé quelque chose. Quelle est la différence avec le Hacham? Le Hacham de lui-même comprend qu'il y a quelque chose à comprendre. Il lui suffit de voir ce qu'il y a, les préparatifs de Pessah, pour savoir qu'il y a quelque chose à comprendre. Le Tam, il a beau voir Manjtana, qui est un chinouille, il a beau voir qu'on a changé quelque chose, qu'on est différent des autres. Et malgré ça, il faut lui raconter l'histoire pour qu'il prenne conscience de quoi il s'agit, que c'est important. À ce moment-là, il revient au cas du Hacham. On lui dit comment il faut faire. Vous voyez pourquoi les cours d'histoire sont très importants dans notre programme. Ça concerne cette partie de la population. Et ensuite, chez nous, il y en a à Mishnah. Je vous lis rapidement la Mishnah. At Petachlo, c'est toi qui dois prendre l'initiative de lui poser la question. Chez Nehemar, puisque le verset dit, et là vous avez donc la référence du verset, c'est pas que tout classique, tu raconteras, tu expliqueras, ça veut dire tu prendras l'initiative d'expliquer à ton fils. C'est pour cela, ces choses qu'on est en train de préparer, la matzah, le maror, la chaoset, on prépare cela, et qu'est-ce qui se passe? Et justement, c'est pour ça, il faut l'expliquer, le sens de ce qui est en signification dans ces signes-là. Bien. Alors voilà ce qu'il y a Mishnah. Yachol me Rosh Kodesh. Peut-être qu'il pourrait croire qu'on va commencer à lui expliquer dès le Rosh Kodesh. Dès que le mois de Nissan où l'événement se passe arrive, dès que ça commence, dès que le Chidouch apparaît, que quelque chose a changé, tu peux déjà lui expliquer. Talmud Lomar Bayoma, dans le verset, a bien pensé à lui. Il sait très bien que lui, que ça peut être que le jour même qu'il se rendra. J'ouvre une petite parenthèse, mais je pense que vous avez compris l'idée. Ça fait des années qu'on essaye de faire comprendre aux Juifs, d'après la Shoah, qui sont dans ce cas chez Noyon et Arishol, que les signes sont arrivés, mais ils ne les voient pas. Vous voyez, les choses commencent. Mais la Mishnah nous dit, tu crois que quand ça commence, il va comprendre, mais il ne va pas comprendre. Tu crois que tu attends le jour même. C'est une Mishnah très pessimiste pour l'avenir du judaïsme français. Vous comprenez ce que je dis? Et remarquez que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on a beau voir, le Rosh Chodesh a commencé. Impossible qu'ils se rendent compte que quelque chose se passe. En Bayoma, le jour même. Ibayoma, si c'est le jour même, Yahom et Gorodio, encore pendant 10 jours la veille. Vous comprenez ce que je veux dire? Talmud Lomar va à Bourzé. Va à Bourzé, l'or à mardi, et là, Beshaach et Matsa au Maror, on arrive là-bas. Si le verset dit va à Bourzé, il faut que la Matsa et le Maror soient là pour que le chêne au Yodé Alishol commence à comprendre de quoi on lui parle. Et que c'est Matzah au Maror, c'est les signes de la galoute la plus terrible, la Matzah et le Maror. Tant que la Matzah et le Maror sont pas là, il ne faut pas comprendre de quoi on lui parle. On a beau lui raconter l'histoire, on a beau lui dire, mais là, Rosh Chodesh, ça commence à être chaud là-bas. Et vous voyez pourquoi c'est trop tard. Et que le pain n'a jamais le temps de lever, etc. Vous rappelez tout ce qu'on a vu. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Bon. Maintenant, je vais revenir au cinquième enfant. Ça nous donnera dans tous les cas un exemple que les quatre, c'est toujours cinq. Alors, je récapitule tous les d'abord les quatre. Il y a le Hacham. Il comprend par lui-même que son histoire a une signification. Il demande qu'est-ce qu'il faut faire pour la réussir. Le Rachar, il comprend aussi que ça a un sens. Il dit, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Alors il faut lui faire prendre conscience, qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il a dit, c'est pas pour lui. C'est clair? Et je vais vous dire la règle, faites bien attention à cela, c'est la seule pédagogie traditionnelle que vous pouvez employer si vous voulez faire des balais de choua. D'abord, ne pas oublier, mais ça, c'est très difficile, ne pas oublier comment vous étiez avant. Vous avez déjà oublié. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? Vous savez que c'est un éducateur, c'est beaucoup de choses. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas oublié, qui n'a pas oublié comment il était quand il était lui enfant. Et pourquoi les parents n'arrivent plus à être des éducateurs normaux? C'est tout simplement parce qu'ils ont oublié, devenus parents, comment ils étaient quand ils étaient enfants. Alors ils ne savent plus comment on va dire ça. C'est clair? Bon, je vais vous émettre. Alors pour revenir à la. C'est clair? Pour revenir à la pédagogie concernant le rachat, Donc là, le que je vous cite, c'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il a tort si on ne lui explique pas d'abord pourquoi il avait raison d'avoir tort. Alors on lui explique d'abord pourquoi il avait raison d'avoir tort, à ce moment-là, il accepte de ne plus avoir tort. Il est réhabilité. Sinon, eh bien, il y a blocage. T'as compris ? C'est ce passage d'enlever le chien. Ramener le rachat au rare, à ce moment-là, il vient tout. C'est clair ? Un rachat, on ne peut pas le convertir. Un rare, oui. Il y a d'avoir ici un paradoxe. Rare, c'est moins grave que rachat. C'est clair ? Ça me rappelle, en fait, je ne sais pas si ça peut vous éclairer, le rachat en question s'oppose.